7h45, les acteurs de l'actualité sont sur Europe 1 et Sébastien Krebs, vous êtes en ligne avec l'architecte Vincent Calbeau, auteur de Paris 2050 chez Michel Lafon.
Bonjour Vincent Calbeau.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous êtes belge plus précisément et vous avez imaginé donc Paris en 2050. La première chose qu'on remarque quand on regarde vos visuels, c'est que la capitale a changé de couleur, elle est recouverte de vert, de plantes.
Oui, donc effectivement, aujourd'hui, Paris est l'une des villes les plus densément peuplées au monde, juste avant Séoul, avec plus de 21 000 habitants par kilomètre carré. Et pourtant, Paris, aujourd'hui, est l'une des villes les plus minérales, avec seulement 5,6 mètres carrés d'espace vert par habitant, contre 35 mètres carrés à Berlin ou 250 mètres carrés à Rome. Et donc, ce manque de végétalisation provoque ce qu'on s'aperçoit ce matin, de forts effets d'îlots de chaleur urbains, qui fait que la température à l'intérieur de la ville ne descend pas sous la barre des 20 degrés la nuit.
Le béton, en gros, le béton, c'est l'ennemi absolu dès qu'il fait chaud, quoi.
Effectivement, aujourd'hui, les villes minérales, elles captent la chaleur du soleil la journée et elles la restituent la nuit. Alors, plutôt que de construire des bâtiments énergivores qui produisent beaucoup de CO2, aujourd'hui, on propose de construire des bâtiments biomimétiques. À l'exemple de notre tour Taozhou Yinyuan à Taïwan, qui
qu'est-ce
est un
que
bâtiment
ça veut dire,
passif.
Biomimétique, je me trompe pas en répétant votre terme, qu'est-ce que ça veut dire?
Un bâtiment biomimétique, en fait, c'est un bâtiment passif. C'est-à-dire un bâtiment qui est tout d'abord très bien isolé, avec une double isolation intérieure et extérieure. C'est un bâtiment qui est ventilé naturellement et qui profite de l'inertie thermique de la Terre constante toute l'année à 18 degrés pour se rafraîchir. En gros, c'est un bâtiment qui économise 70% de sa facture énergétique par rapport à un bâtiment classique. Et les 30% d'énergie restante, il le produit lui-même grâce à l'intégration des énergies renouvelables sous forme d'éoliennes, sous forme de canopées solaires, photovoltaïques ou thermiques, et par le recyclage des eaux grises et la récupération des eaux de pluie. C'est donc un bâtiment qui produit sa propre énergie, qui parfois même produit plus d'énergie qu'il en consomme, et qui transforme tous ses déchets en ressources. En gros, c'est un bâtiment qui fonctionne comme un véritable arbre habité.
Un arbre, et d'ailleurs ça ressemble à un arbre, en tout cas sur vos visuels, puisque vous recouvrez généralement les façades de végétaux. Qu'est-ce que ça change de faire une façade végétale sur un bâtiment ?
Alors effectivement, depuis 10 ans, nous travaillons pour beaucoup de municipalités et de clients qui nous demandent des bâtiments densément végétalisés. Par exemple, un bâtiment qui est recouvert de plus de 20 000 plantes, arbustes et arbres sur ses balcons, sur ses façades, sur ses toitures, eh bien c'est un bâtiment qui est capable de stocker 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. C'est-à-dire c'est un véritable bâtiment dépolluant et en même temps, c'est un bâtiment qui profite de l'évapotranspiration des plantes pour réduire de 3 à 5 degrés la température ressentie en ville. C'est exactement le même effet que vous pouvez ressentir quand vous vous promenez en forêt, en pleine canicule, et que vous avez un rafraîchissement naturel que vous sentez sur votre peau.
Ça veut dire qu'on peut imaginer un bâtiment qui se rafraîchit, qui est conçu pour se rafraîchir naturellement, sans avoir besoin de mettre une climatisation qui va rejeter toute la chaleur à l'extérieur ?
Effectivement, c'est tout à fait le but de nos architectures, c'est finalement de s'attaquer un peu à la racine du mal, c'est-à-dire de diminuer de plus de 70% le recours systématique à l'électricité, à la climatisation mécanique, pour avoir des bâtiments, des villes, des quartiers qui se bioclimatisent naturellement grâce à l'intégration de la nature au cœur de la cité.
À vous entendre, on a donc des solutions pour adapter nos villes à ces évolutions climatiques en cours. Et pourtant, on n'en voit pas tant que ça, des projets, vous le dites, hein, Paris reste une ville extrêmement minérale, très bétonnée, par exemple, Paris et d'autres villes aussi. Hein. Selon vous, on n'a pas encore pris la mesure, on n'a pas encore pris le virage ?
On s'est bien rendu compte durant les dernières élections municipales que finalement l'écologie est devenue l'ADN de la fabrication de la ville. Elle est sortie finalement des partis politiques. On sait aujourd'hui que la lame de fond, c'est de réinventer l'économie linéaire qui produit, qui consomme et qui jette, qui génère également de la dette, pour se transférer vers une économie dite circulaire, qui fasse en sorte que tout ce que l'on produit et ce que l'on consomme soit recyclé et recyclable en boucle vertueuse. Donc on sait aujourd'hui que l'ensemble des urbanistes, des sociologues, des architectes, des ingénieurs, des agronomes veulent construire cette ville fertile.
On le sait, mais est-ce qu'on le fait ?
Qui est basée sur l'analyse de la nature. Alors, on le fait petit à petit, ça dépend un peu le courage des politiques, mais aussi, aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération de promoteurs qui se remettent réellement en question en profondeur et qui veulent finalement construire des bâtiments plus intelligemment.
D'autres villes dans le monde ont de l'avance par rapport aux villes françaises. Vous disiez que vous êtes en train de construire une tour à Taïwan, par exemple.
Oui, donc à Taïwan, en fait, on a mis en pratique ce que je viens d'expliquer. On a construit un bâtiment qui était ventilé naturellement, qui profitait de l'énergie solaire pour produire sa propre énergie, qui était recouvert de 25 000 plantes, arbustes et arbres sur 100 mètres de hauteur. Et aussi, nous avons intégré ce qu'on appelle l'agilité d'usage. C'est-à-dire que c'est une tour avec des appartements dans lesquels il n'y a pas de murs, pas de poteaux, pas de gaines. Et donc, vous pouvez transformer du jour au lendemain votre cellule familiale sans faire de gros travaux, étant donné que tout le bâtiment est déjà pré-innervé avec les énergies renouvelables.
Et donc, d'autres villes, d'autres grandes capitales du monde ont plus d'avance que nous sur ces enjeux ?
Oui, donc on sait qu'on a des villes comme Vienne, comme Francfort, comme Sydney, comme Singapour qui ont de l'avance et qui ont toujours misé leur développement sur trois piliers. Le premier pilier, c'est une végétalisation intensive en créant des forêts urbaines entre les bâtiments et en végétalisant les bâtiments. Le deuxième pilier, c'est miser sur une mobilité douce, partagée, c'est-à-dire quitter finalement le fait d'être propriétaire de son véhicule, mais avoir une flotte de véhicules électriques ou à hydrogène qui soit partagé entre les habitants d'un quartier. Et enfin, toujours basé sur l'économie circulaire, faire en sorte que tous les déchets produits par les habitants soient transformés en ressources. C'est ces fameuses boucles vertueuses qu'on le retrouve dans un écosystème mature, comme par exemple une forêt.
Et finalement, est-ce qu'on doit tout reconstruire ou est-ce qu'on pourrait transformer nos bâtiments actuels qui sont très bétonnés en les végétalisant, en les faisant évoluer pour prendre en compte ces aspects-là ? C'est possible d'adapter nos villes actuelles sans tout reconstruire ?
Oui, donc par exemple, à Paris, il existe 1 million de logements, 50 millions de mètres carrés de commerce et de bureaux et 350 écoles et collèges à éco-rénover. Donc on va dire que 90% des villes françaises ont déjà leur tissu urbain très bien établi. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'aller au-delà de la simple rénovation en métamorphosant ces bâtiments. Nous, on a inventé le concept de solidarité énergétique, c'est-à-dire le fait de greffer des architectures contemporaines sur, par exemple, les bâtiments haussmanniens de la rue de Rivoli pour inventer des tours montagnes qui dressent des boucliers photovoltaïques le long des Tuileries et qui sont recouverts des meilleurs cépages français pour venir se bioclimatiser. Ainsi, l'architecture contemporaine produit l'énergie nécessaire pour les bâtiments patrimoniaux, créant ainsi un équilibre visant un bilan carbone neutre. C'est d'ailleurs le but du plan climat et énergie de la ville de Paris en 2050.
Vous citez la rue de Rivoli, d'ailleurs ça fait partie des visuels sur votre projet, cette rue de Rivoli que vous avez entièrement recouverte de végétaux sur toute la longueur des façades. Merci beaucoup Vincent Calbeau d'avoir été avec nous ce matin en direct.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle que vous êtes auteur de Paris 2050, votre projet qui est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup, bonne journée.